Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, à quelques jours près, la France était confinée. Après l'Italie, bientôt l'Europe et de nombreux pays dans le monde, à la suite de la Chine où était apparu le coronavirus dont la diffusion était devenue pandémique. Une situation inédite où la planète a cessé de tourner à toute vitesse comme avant, un temps arrêté où se sont retrouvés parfois piégés des personnes loin de chez elles, des moments en suspens qui parfois ont aussi donné naissance à des gestes de création comme le livre de l'auteur que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Brina Svit.
Bonjour.
L'an passé, donc à cette époque, vous étiez partie en Inde pour une cure ayurvédique dans la capitale du Kerala, anciennement Trivandrum, mais dont le nom en malayalam est, je vous laisse le prononcer.
Plus long. Mais je ne sais même, je saurais même pas le Thiruvananthapuram.
Bravo. Et donc, après vous avoir suivi en Slovénie, votre pays natal, en Argentine, patrie du tango que vous dansez, en Islande, en Italie et en France, bien
beaucoup,
sûr.
Beaucoup quand même, oui. Il y a
où vous avez situé vos romans.
Ça passe à Paris aussi.
Vous voilà en Inde, mais pas pour écrire un livre au début. Vraiment pour vous soigner. Racontez-nous comment s'est décidé ce voyage pour cette destination en particulier. Est-ce que c'était la confirmation d'une attraction de l'Inde où vous n'étiez jamais allé, ou la perspective de cette cure qui allait vous soigner?
Aussi un peu, comme je fais du yoga très intensément depuis longtemps, pour moi l'Ayurveda, qui était un peu le prolongement du yoga. Donc l'Ayurveda, une médecine millénaire indienne, holistique, naturelle. Mais je me disais, ce n'est pas pour tout de suite, je vais continuer à danser le tango. Et peut-être un jour, plus tard, je vais aller en Inde, pas simplement pour l'Ayurveda, mais aussi pour découvrir le pays, pour le yoga et éventuellement pour l'Ayurveda. Et puis, il y a un an et demi à peu près, 2019, l'été, mais vraiment tout d'un coup, je commence à avoir très très mal au dos et surtout j'ai du mal à marcher. Je comprends pas ce qui m'arrive, mais assez vite, je relis ces douleurs avec le refus d'un manuscrit et je me dis, est-ce que ces deux choses peuvent être liées? Et après, j'ai commencé à aller voir les médecins quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux? J'ai du mal à marcher, vraiment. Moi qui suis une yogini, danseuse de tango, qui me déplace à vélo. Enfin, je me voyais vraiment pas comme j'étais. J'ai vu plusieurs chirurgiens qui m'ont tous dit, il faut vous opérer. Et après, tout d'un coup, je me suis dit, non, je vais essayer autre chose. Je vais aller en Inde. Et me voilà donc partie à, comme on a dit, Thiruvananthapuram. Je savais même pas, quand j'ai regardé la capitale du Kerala, parce que le Kerala, c'est le berceau de l'Ayurveda, et j'ai une amie danseuse de tango qui m'a dit, mais va dans un endroit qui s'appelle Ayurmana. C'est un petit centre ayurvédique, modeste, mais dans la jungle, et c'est un endroit pour toi. Et ben voilà, j'ai pris mon billet très vite. Et voilà.
En tout cas, là, vous vous retrouvez dans un lieu magique. Et grâce à des soins quotidiens, des massages, des séances de yoga et autres rituels de cette médecine indienne millénaire, on a l'impression avec vous, en vous lisant Brina Svit, que vous êtes dans un espace-temps extraordinairement zen. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que déjà vous étiez entre parenthèses dans un monde qui allait justement être entre parenthèses?
Au début, oui, c'était idyllique, introspectif, idyllique, très dépaysant aussi. Parce que moi, c'est la première fois dans ma vie où je me suis retrouvée dans la jungle. Je ne sais pas, c'est le troisième, quatrième jour, j'appelle mais vraiment au secours. Parce qu'il y avait un gros, gros lézard qui se promenait dans ma chambre. Et la femme qui s'occupait de nous, l'intendante des lieux, elle a éclaté de rire quand elle est arrivée. Elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Oh, juste un lézard. Bon, pour moi un lézard énorme. Elle me dit, mais non, il mangera tes moustiques, il te tiendra compagnie. Donc, des paysans. Et puis, je me suis retrouvée là aussi avec d'autres patients ou des gens qui venaient un peu de partout. Bon, il y avait des Indiens aussi, mais on était en tout, on devait être une vingtaine. Et puis, bien sûr, les soignants, parce que l'Ayurveda, c'est aussi tout un système de massage quotidien, enfin deux massages quotidiens, et puis aussi une diététique très particulière. Et moi, surtout, ce que je voulais faire ce qu'on appelle une panchakarma, c'est-à-dire un système de nettoyage très profond du corps, de l'esprit et du cœur. Pour les Indiens, les trois choses sont très importantes. Et donc, les premiers jours, c'était la découverte.
Je m'arrête avec vous sur ce que vous disiez sur les animaux, parce que c'est vrai qu'on... On sent cette symbiose avec la nature dans votre récit, les arbres que vous allez enlacer, les oiseaux. Alors il y a des corbeaux,
des corbeaux
avez un peu
partout.
Peur, mais finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout un oiseau maléfique, au contraire, les éléphants que vous voyez pour la première fois, il y a quelque chose de l'ordre du paradis, non?
Moi je dirais pas paradis comme ça, mais un autre monde pour moi.
En tout cas, c'est une autre vision du monde, une vision indienne, à l'image de la romancière Arundhati Roy, qui est le fil conducteur de votre récit, Brinasvit, et vous allez nous le dire dans un instant, mais avant cela, je voudrais qu'on l'écoute, cette écrivaine indienne, parce que je l'avais rencontrée en 2018 à l'occasion de la publication en français de son livre « Le ministère du bonheur
suprême ». Oui, c'est son deuxième roman, ouais.
Et c'est un livre qui m'avait paru être précisément un hommage à la nature dans son ensemble. Voilà ce qu'avait répondu Arundhati Roy.
Yes, I think so. I mean, I think
one of
the things that not many people notice.
Je crois qu'une chose que beaucoup de gens n'ont pas remarqué dans le ministère du bonheur suprême, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'êtres humains. C'est plein aussi d'animaux, d'arbres, de fleurs.
How even in a, I mean, of course, in places like Kashmir.
Bien sûr, dans des endroits comme le Cachemire, qui sont des paysages paradisiaques magnifiques, mais même à Delhi.
Eventually, when Anjum moves into the graveyard,
quand Anjum finit par s'installer au cimetière et c'est un refuge aussi pour les animaux, en fait, pour les plantes, pour les phénomènes étranges, pour les créatures brisées.
It's like a Noah's Ark, you know?
C'est un peu comme une arche de Noé.
To me,
pour moi, ces 20 dernières années, en voyageant, en écrivant ce que j'ai écrit, je ne considère pas comme complet une politique qui ne considère que les êtres humains, simplement sans prendre en compte les terres qui ont été empoisonnées, les paysages qui ont été incendiés, les insectes qui ont été détruits. Je ne peux pas me contenter, en fait, de regarder les choses du point de vue des êtres humains.
Voilà, l'écrivaine.
Je suis émue d'entendre sa voix.
L'écrivaine indienne, donc Arundhati Roy, auteur il y a plus de 20 ans maintenant du roman Le Dieu des Petits Riens, qui était un livre majeur et auquel vous faites référence, Brinasvit, parce que c'est le livre que vous emportez avec vous.
C'est le seul livre que j'ai emporté avec moi et j'ai découvert avec ravissement qu'il se passait à 150 kilomètres de là, à Kottayam, où j'étais. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé dedans, mais tout, comme elle dit, les arbres, les animaux, là, cette nature. Le Kerala est très particulier aussi parce que depuis 70 ans, c'est le parti communiste marxiste qui est au pouvoir. Donc, il y a toute une iconographie. Moi, qui suis née dans l'ancienne Yougoslavie, je pourrais dire que je me sentais, quand je dis presque chez moi, ce n'est pas tout à fait ça, mais voyant partout les fresques de... avec les symboles communistes, moi j'ai connu ça quand j'étais petite.
Il y avait quelque chose de familier. Et de fait, vous avez intitulé ce récit « Le dieu des obstacles », évidemment en référence
aussi
au
en pensant
des petits riens,
un peu à elle.
Mais c'est quoi le dieu des obstacles?
Le dieu des obstacles, le Ganesha, qui est donc une divinité indienne, un demi-dieu et le dieu préféré des Indiens, celui qui enlève les obstacles. C'est pour ça que très souvent, dans les voitures, on voit une petite figurine de Ganesha, comme dans la voiture de celui qui est venu me chercher. Mais c'est aussi celui qui met les obstacles sur notre route. Parce que on a besoin des obstacles, souvent dans la vie, pour faire quelque chose, pour progresser. Et donc, Ganesha, il met les obstacles sur notre route et il les enlève quand on n'en a plus besoin. Et donc, moi, au début, mon texte, mon récit s'ouvre sur le chauffeur qui vient me chercher à l'aéroport et qui m'amène, en plus c'était la nuit, à travers les villages et puis à un moment une forêt sombre. Je me disais, mais où est-ce qu'il m'amène? Et il y avait ce petit Ganesha qui tremblotait, donc c'est une petite figurine sur...
Le tableau de bord.
Le tableau de bord, exactement. Et donc je le retrouve à la fin en me disant... que je suis partie pour suivre une cure de santé, mais très vite c'est devenu autre chose. C'est devenu une cure presque un peu philosophique. C'est devenu un moment angoissant aussi, parce que au bout d'une semaine, il y a le virus qui s'est invité dans notre centre.
Et on va en parler. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Brina Svith, qui, il y a un an, était en Inde pour un séjour curatif, pour oublier aussi la déception d'un manuscrit refusé par son éditeur, et qui, dans ce lieu extrêmement zen, va être rattrapé par le stress extérieur, puisque la pandémie du coronavirus va arriver aux portes de ce sanctuaire de la médecine. Est-ce que l'enfermement, d'une part, que vous avez connu, puis la demande assez pressante de partir des médecins et des gens du village qui étaient inquiets, ont réduit à néant les bienfaits de votre séjour spirituel ou pas ? Brina Svith, dans la mesure où vous aviez peut-être eu le temps de vous ressourcer, de trouver ici de nouvelles forces.
Il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. C'est que avec ce groupe des gens, avec lesquels au début, on ne formait pas vraiment un groupe, il y a tout d'un coup une sorte de grande connivence qui s'est créée entre nous. On avait tous un peu peur, parce que tout d'un coup, le centre s'est fermé. On ne pouvait plus sortir. Avant, il y avait une grande porte métallique, on pouvait sortir comme on voulait. Et puis tout d'un coup, l'enfermement nous a plongée dans une sorte de stupéfaction. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et surtout, il y a autre chose qui s'est rajoutée à cette angoisse, c'est qu'il y avait une jeune femme parmi nous qui était enfermée dans une petite maison.
Une Malaisienne.
Et au début, on comprenait pas bien ce qui se passait avec elle. Et en plus, moi, j'étais la seule à l'avoir vue. Donc, il y avait tout d'un coup un côté romanesque dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi elle est enfermée là? Pourquoi on lui sert à manger comme ça, presque à travers une grille? Et donc, très vite, on s'est dit, et si on est enfermé à cause d'elle? C'est-à-dire, si elle a le virus, et nous, finalement, aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir? Et en même temps, on a compris que c'était une sorte de temps donné pour nous. C'est-à-dire qu'on a vraiment pratiqué le présent. L'instant présent qui n'est pas celui qui attend celui qui viendra après, mais qui est là pour nous, pour qu'on en fasse quelque chose.
Une forme de révélation.
Révélation, c'est, je dirais pas révélation, mais quelque chose de très fort, de très... Tout d'un coup, on avait une sorte de grande attention les uns pour les autres. On s'écoutait, on se racontait plein de choses finalement assez intimes et on réfléchissait aussi sur notre finitude, parce que malgré tout, on avait quand même un peu la trouille.
Bien sûr.
Et en plus, ça allait complètement crescendo parce que les aéroports commençaient à fermer les uns après les autres. Et donc, il a fallu faire vite, se sauver de cette situation. Et moi, j'étais parmi ceux qui ne voulaient pas partir.
Et d'ailleurs, un de vos compagnons non plus ne veut pas partir. Il veut finir son chemin spirituel. Chemin d'ailleurs qui peut se traduire aussi par dharma en sanskrit. Et il vous dit qu'il y a deux dharmas. Le dharma personnel et le dharma universel. Et il a le sentiment que cette pandémie est peut-être la révolte de la nature. Sans doute parce que aussi vous êtes dans un endroit très particulier. Et vous, qu'en pensez-vous, Brina Zwitz?
Moi, je pense qu'il a complètement raison, que ce qui nous arrive, c'est juste le résultat de ce qu'on fait avec la nature, de comment on pollue les sols, les airs, comment les ressources sont pratiquement finies et comment on regarde ailleurs sans rendre compte. Et là, on a bien tout ça dans la figure et on ne sait pas du tout où on va, ce qu'on va. Est-ce que après ce virus, il y aura peut-être un autre qui va venir et enfin, on n'a pas beaucoup de perspectives en ce moment devant nous.
Mais du coup, est-ce que cette expérience indienne et cette intuition que nous sommes responsables de ce qui arrive...
On est complètement responsables.
Est-ce que ça a changé votre façon de vivre depuis, Brina Zwitz?
Oui et non. Déjà, avant, je peux dire que j'étais assez consciente de ça. Mais je me suis sentie très consciente du fait à quel point on vivait dans un monde disponible. Je fais 3 clics sur Internet. Bon, je paye aussi le prix de mon billet. Mais à 13h30, je me retrouve de l'autre côté de la Terre, pratiquement. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ce monde qui va de plus en plus vite et qui, en même temps, nous enferme dans quelque chose, dans une sorte de vitesse qui n'a plus aucun sens. Le progrès, ce n'est plus le progrès. Et on parlait de ça aussi entre nous pendant nos jours de captivité, si je peux dire comme ça. On se demandait si ce n'était pas le moment de tout changer. Mais... je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression qu'on va tout changer?
Je ne sais pas non plus. Je le rappelle, vous n'étiez pas partie pour écrire, au contraire, même peut-être pour oublier un peu la littérature, Brina Zwitz. Donc, à quel moment est-ce que vous avez compris que vous alliez écrire ce livre et raconter cette expérience?
Pas tout de suite. Dans la, je dirais presque la dernière semaine.
Donc sur place néanmoins.
Sur place, mais même la dernière semaine, un soir, je suis descendue parce que moi ma chambre était au premier étage. Je suis descendue en bas et donc là où se tenait notre salon, et donc j'ai demandé à à mes amis, parce qu'à ce moment-là, on était vraiment très très proches. Est-ce que vous voulez être les personnages de mon livre ? Enfin, je leur ai demandé vraiment la permission. Et ils m'ont dit oui. Et pour moi, ça voulait dire aussi de les prendre tels quels, avec leur prénom, et de les mettre dans mon récit. Mais quand je leur ai demandé ça, j'étais pas encore complètement sûre. Mais c'était vraiment le dernier jour, au dernier moment, quand un chauffeur est venu me chercher pour m'amener à l'aéroport. Il avait le masque, moi j'avais le masque aussi. Et je lui ai demandé si on pouvait s'arrêter pour acheter des bananes. Parce que j'ai réussi à faire mon panchakarma, pas complètement jusqu'à la fin, mais en tout cas, le gros nettoyage a été fait. Et je voulais pas manger les choses dans l'avion. Et donc, je me suis dit, s'il vous plaît, je vais m'acheter des bananes. Et c'est là que j'ai compris, parce qu'il a dit, ah non, 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 tu peux pas sortir de la voiture, je vais aller les acheter pour toi. Et c'est là que j'ai compris que finalement, le monde a vraiment changé en quelques semaines et que tous les Indiens qu'on a rencontrés avant, qui nous faisaient des grands signes d'amitié, tout d'un coup, pour eux, on était pas simplement des intrus, mais presque leurs ennemis.
Des pestiférés.
Des pestiférés, comme si le virus était de notre fait. Et donc, il m'a dit, c'est trop dangereux, tu peux pas sortir. Et donc, il est allé me chercher ses bananes. Et à un moment, dans la voiture, en le regardant, il me dit « Mais tu me reconnais pas ?» Et tout d'un coup, je me suis dit « Oui, bien sûr, c'est lui. » On a retiré nos masques tous les deux. Et je me disais « Voilà, mon récit, je peux écrire quelque chose là-dessus. » Je pense souvent que quand on écrit quelque chose sur le réel, il faut donner une petite dimension romanesque aux choses. Mais là, je n'avais même pas besoin de donner cette dimension romanesque. Tout était là. Tout était, je n'avais qu'à m'asseoir et l'écrire.
D'une certaine façon, la boucle a été bouclée.
La boucle était bouclée, oui. J'étais vraiment très émue de, tout d'un coup, je me dis, mais oui, bien sûr, c'était lui.
Mais aussi dans le sens où vous arriviez avec une frustration littéraire et vous repartez avec un livre. C'est magnifique, cette
oui,
idée
non, mais c'était,
que du mal naît quelque chose de beau aussi.
Oui, oui, tout à fait.
En tout cas,
on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est vrai que quand je suis revenue, j'avais derrière moi cette sensation, j'ai déjà fait un confinement. Mon confinement en Inde, c'était une sorte de confinement initiatique. Je sais ce que c'est. Et après, je suis partie en Slovénie et c'est vrai que je me suis assise et j'ai commencé à écrire mon texte.
Et justement aussi, Brina Svit, pendant ce moment de flottement, d'inquiétude avec le virus à votre porte, vous vous rappelez que vous avez déjà vécu ça?
Oui.
Quand vous étiez jeune en Slovénie, qu'il y a déjà eu une épidémie.
Oui, en 72, il y a eu une épidémie
de variole
en ex-Yougoslavie. Et tout d'un coup, c'est vrai, en plus, on me faisait un soin là qui s'appelle Shirodhara, c'est-à-dire on doit être complètement immobile. Et il y a l'huile très chaude qui goutte sur notre front. À vrai dire, il goutte sur la glande hypophyse. C'est pour ça que c'est une sorte de un traitement royal. Et moi, j'ai eu tout d'un coup vraiment le souvenir très très net de cette épidémie. Sinon, j'ai oublié. Et du fait que la Yougoslavie, à l'époque, a vacciné, mais on pourrait dire presque de force, parce qu'en Slovénie, il n'y avait pas un seul cas, pratiquement toute sa population.
Parlons un peu de Slovénie avec vous, si vous voulez bien, Brina Svit, parce qu'elle est toujours là, finalement, avec vous. La langue aussi, que vous citez pour ponctuer le récit, par exemple, vous dites... Tiens, dans le mot hasard en slovène, il y a aussi le mot clé.
C'est vrai. Le naklouch, il y a le mot klouch dedans qui veut dire clé.
Pour compter aussi, vous comptez en slovène à un
oui,
moment.
Oui, oui, oui.
Et puis vous
sûr.
Dites aussi, avec ma fille, je ne peux lui parler que dans ma langue maternelle.
Oui, parce que ça m'a fait un peu... C'est la première fois que j'ai senti ce que ça pouvait être, que quelqu'un parle... En ma présence, une langue que je ne comprends pas. Parce que les doctoresses parlaient entre elles un malayalam, Et à un moment, je me suis dit, mais comment elles peuvent parler une langue que je comprends pas? Et en même temps, je me suis dit, mais c'est ce que je fais avec ma fille tout le temps, parce que j'arrive pas à lui parler en français. Donc,
Et là-bas, justement, vous parliez anglais, essentiellement.
Ouais.
Mais en quelle langue rêviez-vous? En français ou en slovène?
Ah, moi, je rêve en plusieurs langues. En fait, je suis assez cosmopolite, à vrai dire. Et je...
Il n'y a pas une langue qui prédomine?
C'est selon l'endroit où vous êtes. Non, parfois je suis étonnée, je peux rêver aussi en italien ou en espagnol. Ça dépend de la situation, je dirais. Mais je suis un auteur bilingue, c'est-à-dire j'écris d'abord mon livre en slovène, pardon, en français, et je le traduis moi-même en slovène.
C'est intéressant. D'ailleurs, celui-ci, ça.
Oui, celui-ci, celui-ci, il est déjà traduit, il est en train de sortir en Slovénie.
Donc vous êtes un auteur bilingue.
Oui.
Mais néanmoins. Mais le choix de la langue française, parce que vous vivez en France depuis longtemps, j'imagine.
Oui, puis parce que je pense que quelque part, comme ça, c'est presque plus juste. Pendant longtemps, je pensais que je pouvais pas. Que quand on vient de nos si petits pays que moi, qui a que 2 millions de locuteurs de slovène, on peut pas quitter sa langue. Et puis, à un moment, je l'ai fait. Et je trouve que j'ai bien fait. Mais pour ne pas la quitter, j'écris chaque livre deux fois. Donc ça me prend du temps, mais c'est une expérience finalement assez enrichissante. Parce qu'on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Quand je me traduis, comme je suis auteur, je peux faire ce que je veux. Quand je sens qu'il y a une scène qui n'est peut-être pas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas le mieux, ou qu'il y a un mot qui ne me plaît pas, je peux le corriger. Quelque chose qu'on peut pas faire dans la vie, dans la vraie vie, on peut pas réparer nos erreurs. Moi, dans mes livres, je peux réparer mes erreurs.
En tout cas, changer.
Changer.
Être maître, maîtresse de la situation.
Si vous voulez, en tout cas, c'est un sentiment très jouissif aussi. Je peux faire mieux.
Ah, ça, c'est magnifique. Quelle jolie phrase de conclusion. Et coïncidence du calendrier, il se trouve que nous sommes dans la semaine de la langue française. Donc, à cette occasion, j'en profite pour signaler à nos auditrices et nos auditeurs un événement important. Il s'agit d'une série exceptionnelle de rencontres virtuelles organisées par l'Académie Goncourt, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie du Moyen-Orient, et le réseau des instituts français de la région, qui propose donc des entretiens avec les auteurs de la deuxième sélection du prix Goncourt 2020. Alors, ça a commencé depuis le 15 mars, mais je vous donne les dates des rendez-vous à venir. Il se trouve donc le 22 mars, Djalil Amadou Amal sera en direct avec l'Institut français d'Irak. Le 23 mars, Maël Renoir avec l'Institut français du Liban. Le 24, Mohamed Hassaoui avec l'Institut français dans les territoires palestiniens. Et puis, cerise sur le gâteau, le 25 mars, Hervé Le Tellier, le prix Goncourt pour l'anomalie, sera en lien avec l'Institut français d'Égypte. Voilà, pour des rencontres transversales entre les écrivains et toutes ces personnes qui parlent le français dans le monde entier et qui l'écrivent peut-être aussi comme vous, Brina Zwit. En tout cas, merci beaucoup d'être venue ici dans Littérature sans frontières nous parler de ce récit autobiographique qui est en même temps éminemment littéraire et romanesque. Et on n'a pas parlé des énigmes d'ailleurs.
C'est vrai, hein. Des devinettes.
Des devinettes. Alors justement, ce sera la surprise pour vos prochains lecteurs. Et je rappelle le titre en attendant de ce livre, Le Dieu des obstacles de Brina Zwit, donc qui a paru aux éditions Arléa dans la collection La Rencontre.
Merci à vous.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desessé.